بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de ces rencontres à travers ces traduits taqwa. Qu'Allah Azza wa Jal récompense ceux qui en sont responsables. Il est des choses auxquelles nous devons donner de l'importance, frères en Allah Azza wa Jal et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à notre époque, où les tentations sont comme les déluges. C'est de se pencher sur les hadiths concernant et sur les textes concernant les mérites des œuvres, les lire, les comprendre, pour se motiver à accomplir les bonnes œuvres et les obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les hommes de science qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde nous ont légué un héritage considérable à ce niveau-là. Tel Riyad Salihin, le jardin des vertueux, ou Targhib wa Tarhib, pour ne citer que ces deux-là. Sinon, il y en a d'autres. Et certains savants ont dit, Allah a ordonné les actes obligatoires et surérogatoires. Les actes obligatoires sont le capital, la base du commerce, de ce qui amène le salut. Compte aux actes surérogatoires, c'est le bénéfice et c'est ce qui permet d'atteindre des degrés élevés, inshallah, azza wa jal. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, a dit, au jour de la résurrection, les prières surérogatoires compléteront les prières obligatoires si le fidèle ne les a pas accomplies parfaitement. Et nous approchons de Ramadan, et qui dit Ramadan, dit Taraweh, dit Qiyam al-Layl. Et nous allons nous pencher par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les mérites des prières nocturnes à partir de Riyad Salihin avec l'interprétation du Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre les hommes de science de cette communauté de sa sainte miséricorde. Donc, les mérites des prières de la nuit. Prière de nuit, c'est quelque chose de très important. Et c'est la voie des vertueux et de ceux qui cherchent l'agrément d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset dans Surah Dariyat, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. La traduction approximative du sens de ce verset, ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayh dit concernant ce verset dans l'interprétation qu'il a fait de Riyad Salihin, ça ce sont les attributs et les qualités de ceux qui préservent les droits d'Allah, à qui Allah a préparé des jardins et des sources. Parmi les attributs de ceux qui préservent les droits d'Allah, ils dorment peu la nuit, car ils sont occupés par les prières nocturnes en fin de nuit, et par la lecture du Coran. قال عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. Dans la traduction approximative du sens de ce verset, il nous dit, ton Seigneur sait, c'est-à-dire en s'adressant à Muhammad alayhi salatu salam, ton Seigneur sait, ô Muhammad, que tu accomplis les prières nocturnes moins du deux tiers de la nuit, ou à la moitié de la nuit, ou à son dernier tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayhi, il dit, ils accomplissent les prières nocturnes, et quand ils terminent les prières nocturnes, ils voient qu'ils n'ont pas assez fait et ils implorent le pardon d'Allah. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. La traduction approximative du sens du verset. Et au dernier moment de la nuit, ils implorent le pardon d'Allah. Et dans l'autre verset, dans Sourate Al-Imran, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَصْحَابِ. La traduction approximative nous dit ceci, et ceux qui implorent le pardon d'Allah juste avant l'aube. Donc ils implorent le pardon d'Allah à la fin de nuit. Ils prient, et après leur prière nocturne, ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la qualité et l'attribut et la façon de faire de ceux qui préservent les droits d'Allah. Et ça, c'est la voie sur laquelle était le messager alayhi salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Nawawi, rahimahullah, a cité le hadith de Aïcha dans le chapitre Mérite des prières nocturnes. Le hadith de Aïcha, où Aïcha dit: وعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Al hadith muttafaqun alayhi. Donc dans ce hadith avec lequel il a commencé Nawawi ce chapitre, le hadith de Aïcha, qui a dit: le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière au point que ses talons, que les talons de ses pieds fondirent. Je lui demandais: pourquoi tu agis ainsi au messager d'Allah alors qu'il t'a été pardonné tes péchés passés et futurs? Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, je me comporte en soumis reconnaissant. Je me comporte en soumis reconnaissant. Regardez ces descriptions que dit Aïcha radiallahu anha, que le prophète faisait les prières, ils étaient longs dans la station d'Oubou dans la lecture du Coran, à tel point que ses pieds se fondirent. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Aïcha l'a questionné: pourquoi tu fais ça? Il a dit: je me comporte en soumis reconnaissant. Sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. Pour l'explication de ce hadith, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi nous dit: Aïcha dit que le prophète accomplissait les prières nocturnes et il restait, sallallahu alayhi wa sallam, longtemps debout, au point que les talons de ses pieds fondirent, car le sang descend, c'est pour ça il fondit. Aïcha lui dit: pourquoi tu fais ça alors que tes péchés passés et futurs te sont pardonnés? Il a dit, alayhi salatu wassalam, j'aimerais être insoumis reconnaissant, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi salam, a montré que ses actes sont une reconnaissance et un remerciement pour les grâces d'Allah. Il a montré, alayhi salam, que ses actes sont une reconnaissance et un remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. Cheikh Rahmatullah alayhi nous dit: cela prouve que la reconnaissance est d'accomplir l'obéissance. C'est d'accomplir l'obéissance à celui qui prodigue les grâces, subhanahu wa ta'ala. Et que la reconnaissance, ce n'est pas seulement avec la langue. Quand quelqu'un dit Ashkurullah, c'est bien, car ça, mais ça ne suffit pas. Il faut le remerciement et la reconnaissance des membres du corps par l'accomplissement de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, dans ce hadith, il y a la preuve que le prophète, alayhi salatu wassalam, endurait et patientait dans l'adoration et aimait, alayhi salatu wassalam, l'adoration. Il dit, car personne ne peut faire cela et arriver à ce que les talents font dit que par un grand amour. Il dit, c'est pour ça, il a dit, alayhi salatu wassalam, la cime de mon amour est la prière. La cime de mon amour est la prière. C'est-à-dire la chose qu'il aime le plus, c'est la prière, comme il est rapporté par l'imam Ahmed et par Nasa'i. Il dit, rahmatullah alayh, la prière, c'est l'œuvre la plus aimée du messager, alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, une fois avait prié, une fois il avait prié la prière nocturne avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prophète, alayhi salatu wassalam, était lent dans la station debout, dans la récitation du Coran, Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai failli adopter une mauvaise attitude, on lui demanda comment. Et il répond, j'ai pensé m'asseoir et laisser le prophète alayhi salatu wassalam poursuivre tout seul. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. J'ai pensé m'asseoir et laisser le prophète poursuivre tout seul. Radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce que tellement le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa prière, dans sa récitation, dans la station debout, était long, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Abdullah ibn Mas'ud était plus jeune que le prophète alayhi salatu wassalam. Et Abdullah ibn Mas'ud, malgré sa jeunesse, il n'était pas capable d'endurer comme le prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh dit, rahimahullah, si quelqu'un dit, c'est quoi le mieux dans les prières nocturnes? C'est de rester longtemps debout, ou de rester longtemps prosterné, ou de rester longtemps dans l'inclinaison. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, regarde ce qui est mieux pour amender ton cœur. Regarde ce qui est mieux pour ton cœur. La personne, il dit, la personne peut être plus concentrée, plus humiliée, le cœur présent dans la prière en état de prosternation. Il se peut qu'en étant debout en lisant le Coran avec méditation, il saisit des sens et des leçons du livre d'Allah, ce qu'il ne peut pas avoir en prosternation. Et il dit, rahimahullah, le mieux, c'est qu'il fasse que sa prière soit équilibrée. S'il a été long debout pendant la lecture, qu'il soit long dans l'inclinaison et dans la prosternation. Et s'il n'était pas long dans la station debout pendant la lecture, qu'il le soit aussi dans l'inclinaison et la prosternation pour que sa prière, soit équilibrée, concorde et soit conforme à celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on passe à un hadith dans ce chapitre, qui est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ardah, qui a dit, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه متفق عليه. Donc ce hadith, dans ce chapitre, les mérites de la prière nocturne, Abdullah ibn Abbas dit, on évoqua au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le cas d'un homme qui avait passé la nuit à dormir jusqu'au matin. Le prophète a dit alors, Shaitan lui a uriné dans ses oreilles, ou il a dit dans son oreille. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Et le hadith qui le suit, Abu Huraira radiyallahu anhu, a dit, أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة
فإن صلى انحلت عقده انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه. Et donc dans ce hadith d'Abu Huraira, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, Shaitan, trois nœuds sur la nuque de chacun d'entre vous lorsqu'il s'endort. Et il frappe sur chaque nœud en disant, tu as devant toi une longue nuit, alors dors. C'est, il se réveille en invoquant Allah le Très-Haut, un nœud se défait. S'il fait ses ablutions, un deuxième nœud se défait. Et s'il prie, tous les nœuds sont alors défaits. C'est bien qu'au matin, il se trouve plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il débutera sa journée paresseux et de manière Sinon, il débutera sa journée paresseux et de manière et de mauvaise humeur. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Cheikh Rahmatullah Alayh dit, ces deux hadiths concernent, les prières nocturnes, Qiyam al-Layl, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud et le hadith d'Abu Huraira. Dans le premier hadith, on évoque au prophète alayhi salatu wassalam un homme qui avait passé la nuit à dormir jusqu'au matin. Cheikh Rahmatullah Alayh dit, cela veut dire, il s'est endormi jusqu'au lever de l'aube véridique, il n'a pas prié la nuit. Il dit, ça peut dire aussi qu'il s'est endormi, qu'il a raté la prière de l'aube. Et le prophète a dit, Shaitan a uriné dans ses oreilles ou il a uriné dans son oreille. Et quand, il dit Rahmatullah Alayh, et quand Shaitan a uriné dans son oreille, ça l'a empêché d'entendre l'appel à la prière et il ne s'est pas réveillé. Il dit, cela prouve que Shaitan urine, car le prophète a dit, Shaitan a uriné dans son oreille. Et cela prouve aussi que Shaitan mange et boit. Il a été confirmé par le prophète alayhi salatu salam dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Le messager a dit, ne mangez pas et ne buvez pas avec votre gauche, car Shaitan mange et boit avec sa gauche. Donc Cheikh Al-Uthaymin il dit, il est confirmé que Shaitan vomit aussi. Il dit, un homme a mangé sans dire Bismillah. Shaitan s'est associé à lui, car quand tu débutes de manger et tu dis pas Bismillah, Shaitan mange avec toi. Et quand l'homme a prononcé le nom d'Allah, Bismillah, le prophète a dit, Shaitan a vomi. Et ceci est rapporté dans l'Iqna' de Shalbini. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, Rahmatullah Alayh, ce sont là quatre choses, l'urine, la bouffe, la boisson, le vomissement. Quatre choses auxquelles il faut croire, comme l'a annoncé le prophète alayhi salatu wassalam. Quatre choses auxquelles on doit y croire, parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les a annoncées, comme quoi, Shaitan urine, comme quoi il mange, comme quoi il vomit, comme quoi il boit. Et on doit croire que c'est une vérité. Car, pourquoi? Premièrement, c'est le messager d'Allah qui les a annoncés. Et le messager d'Allah est la personne parmi les créatures qui connaît le plus de choses de l'invisible. Sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, car c'est le plus digne. Le messager d'Allah est le plus digne du conseil pour la communauté. Jamais, alayhi salatu salam, il va annoncer des choses à sa communauté pour donner des confusions aux gens. Abadan. Troisièmement, c'est le plus véridique. Le messager d'Allah est le plus véridique des créatures. Il ne peut pas prononcer des paroles en volant avec le contraire de leur sens apparent. Jamais. Ce qu'il prononce, il est clair. Et sa signification est claire. Il dit, rahimahullah, donc Shaitan mange, boit, urine, vomit. Il dit, ces actes ne sont pas quelque chose concret qui se voit par l'être humain. Non, ça ne se voit pas et on doit y croire. Et il dit, rahimahullah, et nous disons, ce sont des choses, des domaines de l'invisible dont on ne connaît pas la modalité et on ne sait pas comment ils se concrétisent. Le hadith est une preuve que la personne doit tenir à accomplir. Il dit, rahimahullah, et ce hadith est une preuve que la personne doit tenir à accomplir les prières nocturnes pour que Shaitan n'ait pas de voie pour l'atteindre. Il dit, rahimahullah, quant au hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu arda, où le prophète a annoncé que Shaitan fait trois nœuds sur la nuque de chacun d'entre vous lorsqu'il s'endort. Et il dit, lorsqu'il s'endort, il les noue fortement. Il dit, tu as devant toi une longue nuit. Shaitan veut le décourager pour ne pas faire le bien. Mais si la personne se réveille et invoque Allah, elle ne se défait. Et s'il fait ses ablutions, le deuxième ne se défait. Et s'il prie, le troisième ne se défait. Et la personne débute sa journée avec plein d'énergie et de bonne humeur. Il dit, rahimahullah, louange à Allah, ce médicament et ce remède est facile et il est à la portée de tout le monde. Invoque Allah. Il dit, la ilaha illallah, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Cheikh il dit, invoque Allah. Dit Allah, louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui la résurrection. Et il dit, Habdallah, comme il est rapporté dans un autre hadith, il lit les 10 derniers versets dans la fin de Surat al-Imran. Les 10 derniers versets qui commencent ainsi. Inna fi khalqi samawati wal ardi la ayati li uli l'albab, jusqu'à la fin du verset. Et il dit, rahimahullah, fais les ablutions, le deuxième nœud, sera défait. Le premier se défait avec le fait, tu te réveilles, tu invoques Allah, le deuxième se défaira au moment que tu auras fait tes ablutions. Il dit, le troisième nœud se défait au moment que tu auras accompli la prière. Il dit, prie, le troisième nœud se défait. Il dit, c'est pour ça qu'il est préférable à l'être de commencer la prière nocturne par deux courtes rak'at. Pourquoi? Il dit, car le prophète recommandait cela et lui-même il le faisait, alayhi salatu wassalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam débutait les prières nocturnes quand il se réveille avec deux rak'at qui sont courtes. Et il a recommandé cela et il l'a fait. Donc le prophète commençait la prière de nuit par deux rak'at courtes, car cela est plus rapide à défaire le nœud du shaitan et à l'éloigner. Il dit, Habidallah, dès que la personne prie deux rak'at, les nœuds sont tous défaits. Et là, ce sont des choses de l'invisible, il dit, Habidallah, rahimahullah. Il dit, là, ce sont des choses de l'invisible auxquelles on doit croire. Car fait partie l'une des plus grandes caractéristiques du croyant, comme il est dit dans le début de Surat al-Baqarah, c'est qu'il croit en l'invisible. Tout ce qui a été annoncé par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne voit pas, et qui fait partie de l'invisible, ils y croient. Parce qu'il est annoncé par Allah, parce qu'il est annoncé par son messager, alayhi salatu wassalam. Il dit, Hafidhahullah, dès que la personne prie de rak'at, les nœuds sont tous des faits, et là ce sont des choses de l'invisible qu'on ne peut pas capter avec nos sens, on les capte que par la révélation. C'est-à-dire, ces choses de l'invisible, on les connaît que par la révélation. Ces choses de l'invisible, on les connaît que par la révélation. Il dit, rahmatullah alayh, donc, notre devoir, c'est tout simplement de dire, nous y croyons et nous attestons de la véracité, hein? Nous attestons de la véracité des choses qu'Allah et son messager nous ont annoncées. Car c'est ça la réalité de l'Iman. C'est du domaine de l'invisible, notre devoir. Il nous a été annoncé authentiquement par notre messager, alayhi salam, et dans la parole d'Allah, azza wa jal. Khlas. La réalité de la foi veut qu'on y croit et qu'on atteste de la véracité de ce qui a été annoncé par Allah et son messager, alayhi salam. Et ça fait partie de la foi. Et c'est la réalité de la foi. Il dit, rahmatullah alayh, quant à celui qui croit juste à ce qu'il voit, ce n'est pas un croyant. Celui qui croit juste à ce qui est concret et à ce qu'il voit, cher, il dit, ce n'est pas un croyant, parce que fait partie des choses de l'invisible, duquel il est obligatoire de croire beaucoup de choses. On doit croire en le djinn, on doit croire en les anges, hein, et en beaucoup d'autres choses du domaine de l'invisible. Et donc, s'il croit pas, il croit que aux choses qu'il voit et aux choses concrètes qu'il touche, ben, ce n'est pas un croyant. Il dit, quant à celui qui croit juste à ce qu'il voit, ce n'est pas un croyant. Il dit, c'est pour ça, quand les mécréants voient le châtiment, ou voient la mort, ils voient les anges de la mort, ils voient l'ange de la mort, ils croient. Ils sont devant la réalité à ce moment-là. Ils croient. Mais c'est trop tard. Fir'aoun, il dit, rahimahullah, Fir'aoun, quand il a été noyé, Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah, il a dit que Fir'aoun, quand il a été noyé, et qu'il a vu qu'il allait périr, il a dit, comme il est relaté dans le verset, Amantu, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël wa ana min al-muslimin. Il a dit, comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, au moment où il a vu qu'il allait périr, qu'il allait mourir, que c'en est fini pour lui, il a dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui auquel ont cru les enfants d'Israël, et je fais partie des soumis. Hein? Mais c'est trop tard, khlas. La mort était déjà présente là. C'est fini pour lui. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, après que Pharaon a maltraité Banu Israël, maintenant il veut les suivre et croire en ce qu'ils ont cru. Bien sûr, ça ne sert pas et ça ne sert à rien. Qala Azza wa Jal, parce que c'est venu trop tard. Qala Azza wa Jal, wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin, falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Et donc, dans le verset, il est dit, qu'a cité Cheikh, rahmatullah alayh, hein, dans la traduction approximative, il nous dit ceci, alors qu'auparavant, tu as désobéi, et tu as été du nombre des corrupteurs, aujourd'hui, nous allons épargner ton corps pour que tu sois un signe. Et pour qu'il soit un signe de quoi? Un signe d'avertissement pour les autres. Mais regarde, même avec des choses qui sont devant eux, les mécréants, hein, leur cœur est voilé. Combien de mécréants rentrent dans le musée archéologique du Caire, dans lequel se trouve la momie de Ramsès II, qui selon certains nombres de sciences serait ce pharaon qui maltraitait Banu Israël, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé comme signe. Combien de fois sa momie on l'a ramené en Europe, et notamment à Paris, pour la soigner, pour la garder, pour qu'il ne s'effrite pas. Et regardez combien de mécréants ils le voient, et leurs cœurs sont voilés. Combien de visiteurs rentrent dans ce musée archéologique? Hein? C'est un nombre considérable. Mais malheureusement, Allah œuvre les cœurs, il guide les cœurs de ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous devons louer Allah azza wa jal et être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés, d'avoir ouvert nos cœurs à l'islam et à la soumission, et qu'on regarde autour de nous, hein, tous ces égarés, hein, et tous ceux qui se trompent du chemin parmi la communauté et qui passent à côté de l'obéissance à Allah azza wa jal, et qu'on regarde aussi tous ces mécréants, hein, dont le but c'est tout simplement le matériel, subir le, hein, assouvir leurs besoins charnels et, hein, de la bouffe et des vacances et des choses futiles, sans avoir un moment de soumission à Allah azza wa jal et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la réelle vie, elle est dans la foi. La réelle vie, elle est dans la soumission à Allah azza wa jal. Regardez le prophète alayhi salatu wasalam, son bonheur et la chose qu'il aimait le plus, ce qu'il apaisait le plus, c'était la prière. Il disait à Bilal, arihna biha ya Bilal, c'est-à-dire fais l'appel à la prière pour qu'on rentre nous reposer, nous apaiser dans la prière. Hein? Notre messager alayhi salatu wasalam était, c'est notre modèle, et il nous a montré le chemin du bonheur. Et nous devons être reconnaissants à Allah azza wa jal. Regardez le prophète, comment il était reconnaissant jusqu'à ce que ses pieds se fondissent. Hein? Jusqu'à ce que ses pieds fondissent. Hein? Il restait longtemps dans la station debout à lire le Coran et dans l'inclinaison, etc. Et donc, nous devons être ainsi aussi reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nous concernant. Et aussi, la reconnaissance passe par le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et d'accomplir les surrogatoires demandés qui vont nous être utiles à nous. C'est nous qui en avons besoin le jour de la résurrection. Cheikh Al-Utaymi rahmatullah alayhi dit, Banu Israël était terrorisé par Pharaon au point où si sa mort leur avait été annoncée, ils douteraient. Mais si ils voyaient son cadavre flotter sur l'eau, ils croiraient. Hein? Tellement il les a terrorisés. قال عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لا غافلون. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset qu'il a cité, rahimahullah, aujourd'hui nous allons épargner ton corps pour que tu sois un signe pour tes successeurs, cependant beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Beaucoup. Hein? De gens ne prêtent pas attention aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont inattentifs aux signes d'Allah azza wa jal. Regardez, c'est simple. Dans la réalité que nous vivons, à ce moment difficile que la communauté humaine passe, en général, et la communauté musulmane aussi, ce confinement, regardez combien, moi je ne parle pas des non-musulmans, parmi les musulmans qui font des blagues sur le virus. Hein? Ceux-là, ils sont attentifs au signe d'Allah. Alors que c'est un signe d'Allah qu'il a envoyé pour, comme une onde de choc, pour qu'on revienne vers lui, pour qu'on fasse les comptes avec nous-mêmes, pour qu'on voit où sont nos lacunes. Hein? Et ils font des blagues avec. Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps pour que tu sois un signe pour tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Il dit, rahimahullah, en conclusion, ô mes frères, ces choses que vos raisons ne captent pas, il faut y croire, car c'est l'infaillible qui les a annoncées. C'est l'infaillible qui les a annoncés. Qui c'est l'infaillible ici? Al-Ma'soum. Al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, il nous a annoncé toutes ces choses que Shaitan fait, que nous ne voyons pas, nous devons y croire. Et toute autre chose parmi les choses de l'invisible, toutes les choses qui nous ont annoncé de l'invisible. Hein? Notre parole doit être, hein? Nous y avons cru et nous attestons leur véracité. Ainsi nous devons être. On y croit et on atteste la véracité de tous. Hein, ces choses de l'invisible que nous a annoncé Allah et que nous a annoncé son messager alayhi salam. Faut pas dire comme les insensés. Ne dis pas je touche pas avec ma main. Ne dis pas je touche avec ma main mon oreille. Cheikh il dit ne dis pas je touche avec ma main mon oreille et je sens pas d'humidité. Hein? Faut pas tomber dans ce genre de situation. Il dit, Hamdallah, est-ce que l'urine de Shaitan est similaire à celle de l'être humain? Il dit, Hamdallah, ça c'est quelque chose que seul Allah connaît. Comment il est cette urine? Il dit, donc, on croit qu'il est urine dans les oreilles de celui qui manque la prière. Hein? Qu'on ait retrouvé l'humidité dans l'oreille ou qu'on l'a pas trouvé, on y croit. On croit qu'il urine, on croit qu'il mange, on croit qu'il boit, on croit qu'il vomit. Tous ces actes-là, Shaitan il les fait. Comment? Leur modalité appartient à Allah, Azza wa Jal. Notre obligation concernant les choses de l'invisible, c'est de certifier leur véracité et d'y croire. Combien de choses qu'on voit pas, mais on est obligé d'y croire. Parce que ça fait partie de la foi. Hein? Obligé d'y croire. Il dit, quand ils sont venus, quand les mécréants sont venus à interroger le messager alayhi salatu salam sur l'âme. L'âme, c'est quoi l'âme qui fait la vie du corps? Quand il y est, quand l'âme est dans le corps il bouge. Il va, il revient, il fait des gestes, et il fait des choses. Et quand l'âme le quitte, il devient un cadavre, un inanimé qui ne bouge plus. C'est quoi l'âme? قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dans la traduction approximative du sens du verset qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, il y dit, il t'interroge au sujet de l'âme, dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. Hein? Il a donné. Il nous a pas donné la science pour connaître les modalités de l'âme, ni les modalités, hein, de tout ce qui est invisible. Mais tout simplement, on croit que le corps ne peut pas fonctionner sans l'âme, et on connaît pas cette âme, on y croit, on certifie la véracité de l'existence de l'âme, et on sans connaître la modalité, parce que ceci nous est annoncé par notre messager, alayhi salam, et par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la science et le savoir donné à l'être humain, il est peu. La science avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé l'humain, il est minime par rapport à l'océan, hein, à l'immensité de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui embrasse tout, hein, qui n'a pas été devancée par une ignorance et qui n'a pas de fin. Et subhanahu wa ta'ala, il a toujours sait les choses avant qu'ils existent. Et il dit, Habibullah, et quand l'oiseau est venu picorer dans l'eau de la mer, dans la mer, hein, alors que le Khadr et Moussa, alayhi salatu salam, étaient dans le bateau, à ce moment-là, le Khadr a dit, puisque Moussa était en sa compagnie, alayhi salatu salam, il a dit, le Khadr a dit, hein, alayhi salatu salam, ma science est la tienne, n'a diminué de la science d'Allah que comme cet oiseau a picoré de la mer. Comme ce que cet oiseau a picoré de la mer. Qu'est-ce qu'il peut prendre l'oiseau avec son bec de la mer, de l'océan? Rien. Hadith est rapporté par le Bukhari. Cela veut dire rien. Et la science de Moussa alayhi salatu wassalam et d'Al Khadr, comme il l'a annoncé le Khadr dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari, il est comme le geste qu'a fait, l'oiseau pour prendre de l'eau dans le sillon. Qu'est-ce qu'il peut prendre? Ceci va diminuer quoi que ce soit du l'océan? Abedin. Donc, on ne sait que ce qu'Allah nous a appris. Et ce qui nous a été donné comme science est minime. Et c'est Allah qui donne la réussite. Naam. On ne sait que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé par l'intermédiaire de son messager alayhi salatu wassalam et dans le Coran et par la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Et beaucoup de choses, on ne les connaît pas. On ne sait pas. Mais on doit y croire. Parce que ça fait partie de notre foi. Et ça fait partie de la réalité de l'Iman. Et nous allons arrêter là pour cette première assise et nous reprenons, Inch'Allah, à 21h30. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.